Et ce matin, sur les ondes médias, nous parlons de phobie, cette phobie des hauteurs. Nombreux sont les personnes qui en souffrent. On parle ici d'acrophobie. Ce trouble anxieux, cette peur irrationnelle face au vide ou en hauteur, on en parle avec notre spécialiste, Dr. Asmane Lohrabi. Bonjour.
Bonjour et ravi d'être avec vous sur les ondes de médias radio, comme d'habitude.
Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, comme tous les jeudis matins. Alors, vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. D'abord, comment peut-on définir cette phobie des hauteurs ou alors acrophobie, donc, docteur?
Alors, c'est une phobie qui est spécifique, c'est-à-dire qui se manifeste dans une situation bien précise et qui va se définir par l'apparition d'une peur exagérée en intensité avec un cortège de symptômes physiques, sueur, tachycardie, tremblement, impression de jambes en coton, etc., face à des situations où on va être en hauteur. Et quand on dit acrophobie, c'est que cette hauteur, elle va être absolument, je vais dire, minime. Hein. On parle d'acrophobie, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a peur dès lors qu'il monte sur un escabeau, dès lors qu'il y a un petit dénivelé de quelques mètres, ou dès lors que la peur qui va se manifester face au vide ou à la hauteur va être complètement exagérée, complètement disproportionnée par rapport à la nature même du danger. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve dans un balcon bien sécurisé, etc., logiquement, on peut imaginer qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de risque de chute, etc. Et c'est dans ce genre de situation qu'on va parler d'acrophobie quand la personne va commencer à exprimer un malaise. Et pourquoi est-ce que je précise que c'est exagéré? Parce que naturellement, j'ai envie de donner un exemple un peu trivial, mais n'importe qui se retrouve pendu au vide avec, je ne sais pas, 15 mètres de hauteur en dessous de lui, va éprouver une peur. Donc oui, c'est une peur qui existe normalement, c'est quelque chose qui existe probablement dès les tout premiers jours de naissance. On peut imaginer que, même un bébé, quand il sent qu'il est en train de tomber, il y a un raidissement du corps, il y a une posture, il y a une peur qui se manifeste, donc c'est quelque chose qui est presque inné chez nous, mais c'est le caractère excessif qui va poser souci et qui va nous faire retenir le diagnostic d'acrophobie.
D'accord. Alors justement, vous avez parlé de quelque chose d'inné. Est-ce que quand on parle de phobie des hauteurs, et à ce stade donc, qui est une phobie assez importante, est-ce que c'est inné finalement ou est-ce que c'est acquis?
Alors, ce n'est pas inné, mais ce sera plutôt acquis à travers différents mécanismes. Alors, il y a d'abord les personnes qui vont donc acquérir cette peur suite à des événements traumatisants qui ont un rapport avec de la hauteur. Ça peut être une chute d'une échelle, ça peut être une chute d'un manège, d'une balançoire, des choses absolument, je dirais, anodines, mais ça peut aussi être, sans vivre d'expérience traumatisante de cet ordre, ça peut aussi être quelque chose qui a été transmis par nos parents, qui a été appris, entre guillemets, et notamment quand on a des parents extrêmement protecteurs, toujours dans la prudence, toujours dans l'appréciation des risques, attention tu vas tomber, attention tu vas tomber. Enfin, je pense que c'est une phrase que tous les parents ont déjà dit à leur enfant, et qui peut à ce moment-là, justement, ce genre d'injonction parentale, dans le cadre d'une éducation basée sur la maîtrise des dangers, sur la prudence, les précautions à l'extrême, etc., peut former le lit de la acrophobie, entre autres, mais de manière générale de tous les troubles anxieux, pas seulement l'acrophobie.
Docteur Asmane Lohrabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie. Alors, quelles seraient les plus grandes difficultés au quotidien? Alors, on n'est pas toujours en hauteur, mais est-ce que ça se répercute sur le quotidien de la personne qui en souffre, docteur?
Alors, vous l'avez très bien dit, donc ça veut dire que vous n'êtes pas acrophobe, mais vous dites on n'est pas toujours en hauteur. Ça, c'est la réalité vraie. Et quand on n'a pas cette problématique d'acrophobie, oui, on se dit qu'on n'est pas toujours en hauteur. Mais il faut adopter le point de vue d'une personne qui souffre de ce ce genre de trouble pour se rendre compte qu'en fait, non, on est très souvent en hauteur.
Quand on va
être au deuxième ou au troisième étage d'un immeuble, pour son habitation ou dans le cadre de son travail, quand on va devoir prendre un ascenseur pour monter, quand on va devoir prendre une échelle pour changer une ampoule au niveau du plafond, c'est là que cette phobie va se manifester. Donc, c'est-à-dire, on rejoint un petit peu les critères que j'ai donnés pour la définition, c'est que c'est une peur qui va se manifester de manière exagérée, mais pour même de très, très, très faibles hauteurs. Donc, on peut imaginer que l'impact chez les personnes qui souffrent d'une acrophobie assez marquée, l'impact est quotidien. C'est-à-dire que la personne va se retrouver à éviter de monter dans les ascenseurs. Par exemple, quand quelqu'un a un travail qui nécessite, de se déplacer dans des locaux professionnels, se réunir avec des collaborateurs, etc., ben, c'est une personne qui va toujours être à l'affût et avoir peur d'être au cinquième étage ou ce genre de choses. Donc, c'est des petites peurs, entre guillemets, qui nous paraissent, nous, les personnes qui n'en souffrons pas, qui nous paraissent absolument déraisonnables et qu'il n'y a pas de danger, mais pour la personne qui souffre de la phobie, c'est quelque chose qui va conditionner même ses déplacements, conditionner même les engagements, que ce soit sur le plan professionnel ou même sur le plan de la vie familiale ou ce genre de choses, et qui peut rapidement aussi avoir un impact, pas seulement sur la personne, mais aussi sur son entourage proche, parce qu'il y a une restriction des activités, y compris des activités de loisirs, au vu de cette appréhension extrême du fait d'être en hauteur, quelquefois même une très faible hauteur, comme je le disais en donnant l'exemple de l'échelle ou de l'escabeau. On peut s'en sortir seul à condition d'aller vers une confrontation progressive de cette phobie, c'est-à-dire de s'exposer de manière extrêmement progressive à des hauteurs de plus en plus élevées, etc. Ça, oui, mais ça, si vous voulez, c'est le principe même de la thérapie comportementale, parce que ce genre de phobie, comme toutes les phobies spécifiques, répond extrêmement bien aux thérapies d'exposition, donc principalement dans la thérapie comportementale, où justement le principe est de se soumettre à des hauteurs progressives de manière répétée et itérative jusqu'à ce qu'on s'habitue au fait d'être en hauteur et qu'il n'y ait plus cette peur extrême ou exagérée qui nous accompagne. Et justement, il y a une grande confusion chez les personnes qui en souffrent et pas que, c'est que très souvent cette acrophobie est associée au vertige, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils souffrent du vertige des hauteurs. Alors c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que quand on parle des sensations vertigineuses qu'il y a au moment où on a peur, où on est pris par de l'angoisse, de l'anxiété, justement dans cette situation-là, c'est ce qu'on appelle des pseudo-vertiges, alors que les vrais vertiges médicalement parlant, ce sont les impressions rotatoires, quand on a l'impression que le monde autour de nous est en train de tourner et qui peuvent induire à ce moment-là une chute, une chute de sa hauteur, c'est-à-dire le fait qu'on tombe, qu'on perde l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la phobie, c'est quelque chose qui a à voir avec l'oreille interne et qui n'a pas du tout de déclencheur. Enfin, c'est pas la hauteur qui va déclencher ce genre de vertige, mais plutôt les mouvements brusques de la tête. C'est quelque chose, il faut vraiment être conscient de la différence, parce que très souvent, les personnes qui ont cette acrophobie ont la peur, en fait, quand on discute, quand on analyse, ont la peur que, justement, qu'elles soient prises d'un espèce de malaise et puis qu'elles tombent malgré elles de la hauteur et se faire mal. C'est virtuellement impossible, parce que justement, quand on a une sensation de peur un peu importante, on ne peut ni s'évanouir, on ne peut pas avoir de malaise au vrai sens du terme, de perdre son équilibre. Il y a une sensation de mal-être et de malaise, mais voilà, on ne va pas perdre sa motricité, on ne va pas sauter sans le vouloir, on ne va pas s'affaler sur le bord du précipice et tomber. Ce sont souvent les idées qu'il y a dans la tête des gens qui souffrent de cette phobie. Et justement, tant qu'on est dans l'évitement perpétuel de ces situations où on est en hauteur, justement, comme toutes les peurs, la peur se renforce. La peur se renforce et on est encore plus convaincu que si jamais on est en hauteur, même à distance respectable, du bord, du balcon ou du ravin, si on est en nature, etc., on a l'impression que malgré tout, on va tomber de manière involontaire et de manière totalement, je dirais, incontrôlée. Alors que ça n'est pas vrai, il faut bien dissocier les vertiges de cette acrophobie, la peur des hauteurs.
D'accord. Et vous voyez donc des sujets beaucoup moins jeunes arriver avec cette phobie, docteur Lorabi, parce que je pense aussi à tous ces parents dont les enfants ont cette phobie, et c'est déjà très difficile à l'âge adulte. Alors comment gérer ça quand on est un enfant ?
Moi, je vais vous dire l'expérience personnelle que j'en ai, oui. C'est que c'est assez rare d'avoir un enfant qui a cette peur.
D'accord.
J'en ai pas beaucoup vu. C'est quelque chose qu'on voit principalement chez les personnes adultes et les seniors. Les seniors, pour d'autres raisons, parce que les seniors, effectivement, plus on avance en âge, plus il y a des difficultés de locomotion, des difficultés de marche, un risque de chute réel, et puis assez souvent des chutes qui ont occasionné des fractures du col du fémur, des choses comme ça, chez les personnes âgées, ce qui va conditionner encore plus, ce qui peut conditionner l'apparition de la peur d'être en hauteur par rapport justement au risque de chute, tout en sachant que quand on va parler de ce genre de choses, c'est-à-dire de l'acrophobie, l'acrophobie peut aussi se manifester pas toute seule chez une personne, c'est-à-dire qu'elle peut se manifester avec un autre type ou d'autres types de troubles anxieux qui vont coexister de la même manière que l'acrophobie et qui vont peut-être donner lieu justement à une prise en charge un peu plus conséquente. Parce que quand on a une phobie situationnelle uniquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres diagnostics associés, oui, l'impact reste relativement léger sur la qualité de la vie au quotidien, et même au niveau du traitement, comme je vous ai dit, une thérapie comportementale assez rapide avec une exposition graduelle progressive, ça permet d'avoir d'excellents résultats. Alors que justement, quand il y a d'autres comorbidités psychiatriques, notamment des comorbidités anxieuses, que ce soit un trouble anxieux généralisé ou autre, à ce moment-là, la prise en charge va être un peu plus globale et l'acrophobie est souvent juste un symptôme, je dirais, satellite des problématiques qu'il y a. Donc c'est une maladie, ou plutôt c'est une phobie qui touche plutôt les personnes d'âge mûr. C'est vraiment mon constat. Et chez les enfants, c'est quelque chose d'assez rare, enfin assez rarement isolé. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'acrophobie chez un enfant, mais très très souvent ce sera associé à d'autres types de troubles psychiatriques.
D'accord. Alors pour finir, que diriez-vous à toutes ces personnes qui se reconnaissent donc et qui souffrent d'acrophobie? Pour finir, est-ce que vous auriez des petites astuces ou des choses à leur dire, vous en tant que spécialiste en psychiatrie, docteur Lorabi?
L'acrophobie, on peut aussi la voir sous un autre angle, c'est que on n'a pas confiance en nos capacités à affronter la situation plus ou moins risquée dans laquelle on est. C'est comme ça que je vais essayer de la redéfinir. Et à ce moment-là, l'intérêt de parler de cette histoire de confiance en nos capacités à affronter, c'est remettre le focus sur la notion de confiance en soi. C'est très important parce qu'au final, on remarque que toutes les personnes qui ont un trouble phobique sont des personnes qui souffrent d'un déficit de confiance en soi. Et justement, le principal, je dirais, paramètre sur lequel il faut essayer de travailler, c'est cette donnée-là. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur la confiance en soi, notamment par rapport aux problématiques de phobie? C'est être dans des conduites proactives de confrontation à des risques divers mais mesurée. Et quand je dis confrontation à des risques divers, ça peut se faire dans des activités de loisirs, hein, notamment on va penser à la pratique de l'escalade chez nos enfants, on va parler aussi de pratiques de choses comme l'équitation ou d'autres sports un peu risqués aussi comme le surf, etc. Et ça présente un intérêt justement pour prévenir l'apparition de ce genre de phobie. Et aussi, même quand il y a ce genre de phobie, le fait de se reconfronter à des risques et puis y prendre plaisir, ça nous permet de manière je dirais indirecte, ça nous permet dans la plupart des cas de diminuer grandement l'intensité de la peur qui peut se manifester dans les situations phobogènes. Donc le conseil que j'ai, c'est que il faut essayer de prendre du plaisir dans des activités de loisirs, il faut essayer de d'aller au-devant de petits risques, des risques mesurés, des petits dangers, et il faut sortir un petit peu du principe de précaution à outrance. Voilà mon conseil.
Merci beaucoup, docteur Hatman, le ravi. Vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi, à très bientôt.
À très bientôt, et c'est un entretien réécoutable sur notre site medien.com.